Cela fait 2 mois que les Israélites ont quitté l'Égypte quand ils arrivent au Sinaï. Le mot Sinaï désigne à la fois la montagne du Sinaï et le désert qui l'entoure. Le peuple d'Israël va rester environ 1 an à cet endroit. Et tous les événements qui sont rapportés dans le livre de l'Exode à partir de ce point ont pour cadre le Sinaï. C'est aussi le cas pour l'ensemble du livre du Lévitique, qui a pour cadre le Sinaï, et c'est aussi le cas pour les 10 premiers chapitres du livre des Nombres. C'est donc une partie très importante de la vie du peuple d'Israël qui va se jouer en ce lieu, au Sinaï. Le peuple arrive au Sinaï après 2 mois de pérégrination dans le désert. Ils sont venus au Sinaï, ou plutôt, Dieu les y a conduits parce que c'est là qu'il leur a donné rendez-vous. Souvenez-vous de ce que Dieu, je m'emporte et j'oublie d'afficher. Souvenez-vous de ce que Dieu avait dit à Moïse au buisson ardent. Exode 3, versets 11 et 12, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu seras sorti d'Égypte, le peuple, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous servirez Dieu sur cette montagne. » Il s'agit du Sinaï. Et c'est donc ainsi que le peuple se retrouve au Sinaï. C'est pour Moïse une sorte de retour aux sources, puisque c'est là, dans cette partie du désert, que Dieu s'est révélé à lui, au buisson ardent. C'est donc le récit des premiers temps au Sinaï que je vous propose de méditer ce matin dans notre série sur Moïse, dont c'est le 16e volet, et je l'ai intitulé « À la rencontre de Dieu ». Et nous allons lire, et je vous invite à écouter la lecture ou à suivre dans vos Bibles, c'est le chapitre 19 du livre de l'Exode, nous allons lire l'ensemble du chapitre. Exode chapitre 19, je lis à partir du verset 1. Le 3e mois, à compter de leur sortie d'Égypte, jour pour jour, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela de la montagne et lui dit, « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob, ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi. Maintenant, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux Israélites. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Tout le peuple répondit ensemble, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » Moïse répéta au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit à Moïse, « Je viens à toi dans la nuée épaisse, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il mette pour toujours sa foi en toi. » Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit à Moïse, « Va vers le peuple, consacre-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, le Seigneur descendra sous les yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour en disant « Gardez-vous de monter dans la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Celui-là, on ne portera pas la main sur lui, mais on le lapidera ou bien on le criblera de flèches. Que ce soit une bête ou un homme, il ne restera pas en vie. Quand la corne de bélier retentira, ceux-ci monteront dans la montagne. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il consacra le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple, « Soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez pas d'une femme. » Le 3e jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne avec un fort son de trompe. Tout le monde qui était dans le camp se mit à trembler. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent debout au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée montait comme celle d'un fourneau, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompe se faisait de plus en plus fort. Moïse parlait, et Dieu lui répondait. Ainsi le Seigneur descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. Le Seigneur appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse monta. Le Seigneur dit à Moïse, « Descends, avertis le peuple, de peur qu'il ne se précipite vers le Seigneur, pour regarder qu'il n'en tombe un grand nombre. Que les prêtres qui s'approchent du Seigneur se consacrent aussi, de peur que le Seigneur ne cause des pertes dans leur rang. » Moïse dit au Seigneur, « Le peuple ne pourra pas monter au mont Sinaï, car tu nous as toi-même avertis en disant, « Fixe des limites à la montagne et consacre-la. » Le Seigneur lui dit, « Va, descends. Tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les prêtres et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers le Seigneur, de peur qu'ils ne causent des pertes dans leur rang. » Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Je n'ai pas revu depuis très longtemps le film mythique de Cécile B. 2000, Les 10 commandements, mais de mémoire, je dirais que Moïse est monté 2 fois sur la montagne. La première pour recevoir les tables de la loi, et la seconde pour les recevoir une 2e fois, après les avoir brisées devant le triste spectacle du veau d'or. En réalité, Moïse est monté sur la montagne beaucoup plus de fois que ça. Dans le texte que nous considérons ce matin, je pense que sans forcer le texte, on peut déjà en dénombrer 3. Et il n'est pas encore question des 10 commandements. La première montée se trouve au verset 3. Il est dit là que Moïse monta vers Dieu. Dieu est là, présent au rendez-vous. Et il appelle Moïse. C'est la suite du verset 3. Dieu appelle Moïse afin de lui donner un message pour le peuple. En fait, Dieu veut faire alliance avec son peuple, avec Israël. Verset 5. Mais si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples. Cette alliance, dit mosaïque ou dit sinaïtique, va être stipulée par la suite dans les termes des alliances de l'époque qui étaient contractées entre un suzerain et un peuple vassal. Pour faire simple, des alliances, c'était des alliances où le suzerain dictait ses conditions à son peuple vassal. Il s'engageait à le protéger en contrepartie d'une fidélité et d'une loyauté exclusive. Il y avait donc des conditions à respecter dans ce type d'alliance. Ce qui fait que l'alliance du Sinaï est dite conditionnelle. Et nous en avons un aperçu dans notre texte, puisque Dieu dit « si vous m'écoutez, si vous m'écoutez, et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre. » Autre traduction, ma part personnelle ou mon bien précieux. Si vous le faites, mais si vous ne le faites pas, ça sera pour la suite. Et donc, par cette alliance, Israël va devenir, au Sinaï, le peuple vassal de Dieu. Et Dieu devient son roi. Quel est le message que Moïse doit porter au peuple ? Verset 4, il doit premièrement leur rappeler ce que Dieu a fait à l'Égypte. Verset 4, toujours, il doit en parallèle leur préciser que cette délivrance est en fait, littéralement, Dieu qui les portait comme un aigle porte ses petits, qui les portait pour les faire venir à lui. Verset 5, il doit ensuite leur préciser les avantages, que leurs avantages sont conditionnels. S'ils écoutent et s'ils obéissent, alors ils seront le bien précieux du Seigneur. Alors ils seront pour lui un royaume de prêtres ou de sacrificateurs. Ils seront pour lui une nation sainte. C'est avec ce message que Moïse va redescendre vers le peuple. Et après l'avoir exposé aux anciens et au peuple, nous lisons la très belle réponse du peuple au verset 8. Tout le peuple répondit ensemble, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » C'est beau. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Au verset 9, il est dit que Moïse répéta les paroles du peuple au Seigneur. Sans doute est-il monté ici pour la deuxième fois sur la montagne, à la rencontre de Dieu, Dieu qui va lui donner de nouvelles instructions. Et Dieu commence par dire à Moïse au verset 9 qu'il va asseoir son autorité auprès du peuple. Comment ? En s'adressant à Moïse de manière audible pour le peuple, afin que le peuple ait toujours confiance en lui. Puis Dieu demande à Moïse de consacrer le peuple, de le préparer à rencontrer Dieu. La rencontre se fera le troisième jour. Ils ont donc 2 jours pour se préparer, pour se purifier, pour laver leurs vêtements. Et nous lisons au verset 11, le troisième jour, le Seigneur descendra sous les yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Si Dieu demande la consécration du peuple, il va aussi fixer des limites à ne pas franchir sous peine de mort. Dieu vient à la rencontre du peuple, mais il y a des règles à respecter. Le peuple ne doit ni monter sur la montagne, ni même la toucher. Et quiconque transgressera ces prescriptions, ces interdictions, sera mis à mort. C'est avec ces nouvelles instructions que Moïse retourne vers le peuple, au verset 14. Et le peuple se prépare à rencontrer Dieu selon les directives de Dieu. 2 précisions nous sont données au verset 14 et 15. Quant à cette consécration, ils doivent laver leurs vêtements et ils doivent s'abstenir de relations sexuelles. Et le troisième jour arrive. Le jour où Dieu va se révéler. Le jour où Dieu va descendre sur la montagne. Le jour où le peuple va trembler comme jamais. En effet, les manifestations qui accompagnent la présence de Dieu sont terrifiantes. Il y a les coups de tonnerre, il y a les éclairs, il y a une épaisse nuée, et tout ça au son de la trompe. Verset 16, « Et tout le peuple se mit à trembler. » On peut assez facilement imaginer la scène. Dieu avait dit qu'il descendrait sur la montagne. Le peuple s'y est préparé. Il y a de l'anticipation, il y a de l'électricité dans l'air. Et le moment venu, les éléments se déchaînent. On comprend facilement la terreur du peuple. En fait, même Moïse est épouvanté. Nous le savons parce que l'Épître aux Hébreux nous le rapporte. Vous ne vous êtes pas approchés en effet de choses palpables, ni d'un feu ardent, ni d'une obscurité, ni de ténèbres, ni d'une tempête, ni d'un son de trompette, ni d'une clameur de paroles telle que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus. Tout ça, c'est l'expérience du peuple d'Israël au Sinaï, et en particulier au moment des 10 commandements. Car ils ne supportaient pas cette injonction, qui touche la montagne, même une bête sera lapidée. Verset 21, le spectacle était si terrifiant que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. De loin, ça devait déjà être terrifiant. Alors imaginez de près. De près parce que Moïse fait avancer le peuple au pied de la montagne pour aller à la rencontre de Dieu, au verset 17. Et c'est ainsi que le peuple s'approche de la montagne pour se tenir à son pied. Verset 18, la montagne est toute en fumée. La montagne est en feu. Le Seigneur y est descendu dans le feu. Une montagne qui fume comme un fourneau, dit le texte. Une montagne qui tremble avec violence. Et tout ça au son de la trompe qui se fait de plus en plus fort, dit le texte. C'est dans ce contexte apocalyptique que Dieu se révèle au peuple et qu'il parle à Moïse. Sans doute de manière audible pour le peuple, pour que le peuple entende et qu'il ait toujours confiance en Moïse, comme Dieu l'avait dit. Plus tard, à la fin du chapitre 20, quand Dieu va déclamer les 10 commandements, dans le contexte de Dieu qui parle directement au peuple, la terreur du peuple va atteindre son paroxysme et le peuple va demander à Moïse de demander à Dieu que Dieu ne leur parle plus directement, mais qu'il parle à Moïse qui ensuite dira au peuple ce que Dieu a dit, parce que sinon, nous mourrons, dit le peuple. Ça nous laisse imaginer l'état de terreur dans lequel était le peuple. Et c'est donc dans ce contexte saisissant que Moïse va monter pour la 3e fois. Sur la montagne. Et il faut saluer le courage de Moïse, qui ne devait quand même pas en mener large. Et dans ce 3e dialogue entre Dieu et Moïse, Dieu donne encore quelques précisions, surtout pour préserver le peuple, pour qu'il ne meure pas, pour qu'il respecte bien les limites que Dieu a fixées. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que le peuple meure, c'est que le peuple vive. Les règles et les limites sont là pour protéger le peuple. Moïse va redescendre vers le peuple, et la prochaine fois qu'il montera, ce sera avec Aaron. Nous avons passé rapidement en revue les éléments essentiels du texte pour essayer d'en comprendre l'agencement, et j'aimerais maintenant passer au prolongement, aux applications. Et la première chose que j'aimerais souligner ici, c'est que c'est Dieu qui est toujours premier dans notre rencontre avec lui. C'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Ce n'est jamais nous qui initions quoi que ce soit. Nul ne cherche Dieu, dit Paul dans Romains 3, verset 11. En fait, quand nous nous approchons de Dieu, nous répondons à son appel. Nous allons à sa rencontre parce qu'il s'est d'abord approché de nous. parce qu'il s'est d'abord révélé à nous. Comme le dit l'apôtre Jean dans sa première épître, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pourrait-il en être autrement ? Non, parce que dans notre péché, nous sommes morts spirituellement. Les choses de Dieu nous sont étrangères dans notre péché. L'homme naturel, dit Paul dans 1 Corinthiens 2, verset 14, c'est-à-dire l'homme sans Dieu, n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu. Si le peuple et Moïse se sont approchés de Dieu, ce n'est pas de leur initiative. C'est Dieu qui est allé chercher Moïse dans le désert. C'est Dieu qui l'a envoyé vers Pharaon. C'est Dieu qui a délivré son peuple. C'est Dieu qui les a conduits dans le désert jusqu'à lui. C'est Dieu qui leur a permis de survivre dans le désert. C'est Dieu qui leur a donné rendez-vous au Sinaï. C'est Dieu qui a appelé Moïse à monter sur la montagne. C'est Dieu qui a fait le premier pas. Et il faudrait même dire les premiers pas. Oui, la grâce est toujours première, toujours. Et il est bon de nous en souvenir. Il est bon de nous en souvenir afin qu'aucun orgueil n'ait jamais de place dans notre cœur au sujet de notre relation à Dieu et au sujet de notre salut. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Dit Paul aux Corinthiens en parlant des dons. 1 Corinthiens 4, verset 7. Et il continue, « Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Ce qui est vrai pour les dons, bien évidemment pour la grâce de Dieu qui est un don, elle aussi, et qui est toujours première. Le deuxième prolongement que j'aimerais faire concerne la nécessité de se préparer pour s'approcher de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu à la légère. C'était une nécessité absolue pour le peuple d'Israël. Il devait se purifier. Il devait laver ses vêtements. Il devait s'abstenir de toute relation sexuelle. Non pas parce qu'elles étaient répréhensibles en elles-mêmes, mais parce qu'elles entraînaient une impureté rituelle et donc l'impossibilité de s'approcher de Dieu. Toute cette consécration, toutes ces purifications extérieures avaient pour but d'enseigner au peuple la sainteté de Dieu et par conséquent leur péché, leur nature pécheresse qui les sépare de Dieu. Ces purifications étaient une image de la purification intérieure et de la sainteté de comportement que Dieu attendait de son peuple. Parce que Dieu est saint, parfaitement saint, et parce que l'homme est pécheur, les Israélites ne pouvaient pas s'approcher de Dieu à la légère, de manière désinvolte, et le peuple devait absolument apprendre cela. Il devait respecter les règles, les limites fixées par Dieu sous peine de mort. Qu'en est-il pour nous ? Comment pouvons-nous nous approcher de Dieu ? Risquons-nous aussi de mourir si nous ne respectons pas certaines règles, si nous ne sommes pas vigilants ? En réalité, pour nous, quelque chose de fondamental s'est produit depuis cet épisode. Il s'agit bien évidemment de la venue de Jésus. Une venue qui a complètement transformé notre relation à Dieu. Par Jésus, Dieu est devenu notre Père. Par Jésus, nous avons un accès permanent jusque devant le trône de la grâce. Par Jésus, nous avons l'assurance de ce libre accès auprès du Père. Vous avez reconnu là sans doute des bribes de versets de l'Épître aux Hébreux. Oui, la venue de Jésus a tout changé pour nous. Est-ce pour autant que nous pouvons nous approcher de Dieu n'importe comment? Pouvons-nous traiter Dieu comme un pote et nous approcher de lui sans autre, parce que le Dieu trois fois saint est devenu notre Père en Jésus? Même s'il est notre Père, Dieu n'est pas notre copain. Même s'il est notre Père par Jésus, Dieu est et reste le Dieu parfaitement saint, et nous restons pécheurs. À mon sens, un des plus grands défis de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui dans le monde, en plus de redonner la centralité à la parole de Dieu, c'est de retrouver le sens de la sainteté de Dieu. C'est de retrouver le sens de la crainte de Dieu, non pas comme dans l'Ancien Testament, parce que Jésus est venu et ça a tout changé, on l'a dit, mais dans le respect, comme le respect que nous devons au Dieu trois fois saint, même s'il est devenu notre Père. Ce que nous venons de dire, ce que nous sommes en train de dire, m'amène à un troisième prolongement. C'est la nécessité pour nous de bien comprendre qui est Dieu. Pourquoi ? Pour tout ce que nous venons de dire, bien sûr, mais aussi parce que ma vision, ma compréhension de Dieu détermine beaucoup de choses. Une vision juste de Dieu, par exemple, va m'amener à une juste adoration de Dieu. Si je comprends qui est Dieu, je m'approcherai de lui avec le respect qui lui est dû. Une compréhension juste de Dieu m'amène aussi à une juste compréhension de moi-même. Quand je comprends qui est Dieu, quand je comprends sa majesté, quand je comprends sa sainteté, alors je comprends aussi ce que je suis, la manière dont il me voit. Je comprends que je suis pécheur. Je comprends que je suis perdu à cause de mes péchés. Je comprends mon besoin de la grâce de Dieu. Il est essentiel d'avoir une image juste de Dieu, du moins la plus juste possible. Parce que bien évidemment, il nous est impossible de comprendre entièrement et parfaitement Dieu. Mais si mon image de Dieu est faussée, trop faussée, alors mon image de moi-même le sera aussi. Si mon image de Dieu est superficielle, trop superficielle, alors ma vie le sera aussi. C'est bien sûr par sa parole que nous apprenons à connaître Dieu. Mais c'est aussi et surtout par l'action du Saint-Esprit en nous qui nous éclaire, qui illumine notre esprit, qui nous rend capable d'appréhender la personne de Dieu. C'est ici le petit lien que je peux faire aujourd'hui avec ce dimanche de Pentecôte, avec la venue du Saint-Esprit et ses bienfaits. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2, versets 10 à 12, « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les humains sait ce qui relève de l'humain, sinon l'Esprit de l'humain qui est en lui ? De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or nous, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Seul l'Esprit de Dieu peut sonder les profondeurs de Dieu. Et donc lui seul est en mesure de nous révéler qui est Dieu. Trop souvent, la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte est comprise uniquement par le biais, en termes de dons miraculeux, etc., de l'Esprit, et pas suffisamment en termes de révélation du Père, de révélation de qui est Dieu. C'est par l'Esprit que nous avons reçu à notre conversion, quand nous nous sommes tournés par la foi vers Jésus, que nous pouvons comprendre qui est Dieu et comprendre les choses de Dieu. Quel don merveilleux que celui de l'Esprit-Saint à la Pentecôte, qui nous permet de comprendre et de connaître qui est Dieu. J'aimerais, dans un quatrième et avant-dernier prolongement, faire écho à la belle image qui est utilisée dans notre passage pour parler de ce que Dieu a fait pour Israël depuis la sortie de l'Égypte. Je relis le verset 4. « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi. » Je n'ai pas été vérifié, mais il paraît qu'au moment de l'envol, quand les petits sont prêts à quitter le nid et qu'ils y vont, la femelle de l'aigle va voler en dessous des petits pour que, s'il y a un petit problème, ils puissent se poser sur ses ailes et elle va ainsi les amener en lieu sûr. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi. C'est une image tout à fait appropriée pour décrire ce que Dieu a fait pour Israël depuis la sortie de l'Égypte. Dieu les a portés, littéralement portés. Ils avaient tout à apprendre, et Dieu les a portés. Ils étaient complètement vulnérables, et Dieu les a portés. Il les a délivrés de l'esclavage. Il a ouvert la mer pour eux. Il les a délivrés à tout jamais des Égyptiens. Il leur a donné la manne, la caille, de l'eau. La victoire contre Amalek, il les a littéralement portés. Mais maintenant, il est temps de passer à autre chose. La marche par la foi, ce n'est pas toujours être porté par le Seigneur. Il y a un moment où il faut avancer soi-même. Il y a un moment où il faut écouter et puis obéir. Et ce moment est arrivé pour Israël. Le temps d'écouter Dieu, le temps de l'obéissance, le temps de la marche par la foi. Dieu n'est pas seulement le dispensateur de bienfaits et de faveur pour son peuple, il est aussi celui qui exige l'obéissance de son peuple. S'il y a un temps pour être porté, et c'est un bonheur pour nous de savoir que dans notre faiblesse, dans nos moments difficiles, Dieu parfois nous porte. Il y a aussi un temps pour la marche par la foi, un temps où il faut y aller, un temps où nous pouvons y aller parce que nous savons que Dieu n'est pas loin, comme l'aigle qui vole juste en dessous et que s'il le fallait, il est là pour nous récupérer. Il arrive parfois que nous attendions et que nous attendions des choses de Dieu et nous sommes là à attendre. Nous ne bougeons pas, nous attendons. Et ce que Dieu veut, c'est que nous avancions en lui faisant confiance, bien sûr. J'aimerais terminer en soulignant une dernière chose, un dernier prolongement, à savoir que ce qui est dit d'Israël ici dans notre texte va être dit de l'Église dans le Nouveau Testament. Je pense ici au verset 6. « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux Israélites. » Il y a plusieurs textes auxquels je pourrais faire appel ici. Je cite simplement 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé, des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Il y aurait bien évidemment beaucoup, beaucoup de choses à dire ici, mais nous n'en avons pas le temps. Ce que j'aimerais simplement souligner, c'est que ce qui était vrai d'Israël est maintenant vrai de l'Église de Jésus-Christ. De l'Église de Jésus-Christ que l'on peut, à ce titre, considérer comme le nouvel Israël de Dieu. Aujourd'hui, c'est sur l'Église que Dieu règne. Aujourd'hui, ce sont les membres de la nouvelle alliance en Jésus qui sont un peuple de prêtres pour Dieu, de sacrificateurs. Aujourd'hui, c'est l'Église qui est une nation sainte, c'est-à-dire mise à part pour apporter un culte à Dieu. Nous étions dans les ténèbres. Nous n'étions pas un peuple. Mais Dieu nous a appelés des ténèbres à son étonnante lumière. Dieu nous a rachetés. Il nous a délivrés. Et comme il l'avait fait en son temps pour Israël, nous avons obtenu compassion ou miséricorde. Et nous sommes devenus un peuple. Un peuple, son peuple. Une nation sainte. Un royaume de sacrificateurs. Quelle grâce! Quelle grâce que la grâce de Dieu qui a agi ainsi en notre faveur et pour sa gloire. Amen. J'aimerais vous inviter à chanter cette grâce de Dieu qui nous permet de nous approcher de Dieu en toute